l'EIT, pour Sioprema et pour d'autres entités, c'est l'ouverture d'esprit et puis une réflexion permanente, c'est comment arriver à faire des économies.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on se trouve à Troyes dans le cadre des rencontres francophones de l'écologie industrielle et territoriale. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter ?
Bien sûr. Donc avant tout, j'ai une formation de chimiste. Pour faire un peu le lien après avec ce qu'on va discuter, j'étais passionné par la météorologie et le climat. Et déjà, donc, j'ai 46 ans aujourd'hui. Et donc pendant mes études, j'étais malheureusement pas assez bon en mathématiques. Et pour faire de la météo, il y a beaucoup d'algorithmes. Et donc, je me suis dirigé vers des études de chimiste. J'ai travaillé 2 ans en recherche et développement dans les adhésifs dans une entreprise suisse. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Sioprema en tant qu'ingénieur process, ingénieur de production, puis directeur d'usine à partir de novembre 2004, un poste que j'ai occupé pendant 13 ans, donc jusqu'au milieu de l'année dernière. Et par rapport à des convictions environnementales, j'ai décidé de complètement changer de métier et de proposer au président du groupe Sioprema donc, de travailler sur la stratégie de la performance environnementale. Donc c'est vraiment un choix personnel. Et de le voir également en interne comme un moteur de croissance, on va dire, durable et pérenne de l'entreprise Sioprema.
D'accord. Donc du coup, on pourra revenir sur le comment est-ce que cette, on va dire, cette transformation, cette proposition-là auprès de la direction s'est passée. Donc on va parler de Sioprema, mais également de la démarche clé qui a été initiée en fait au niveau du port de Strasbourg, parce que vous êtes basé du coup sur Strasbourg.
Tout à fait.
Donc la démarche clé, c'est coopération locale et environnementale en synergie qui est donc animée par Idée Alsace, qui a été lancée en 2013 sur le port. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce projet et la manière dont vous, aujourd'hui, vous êtes acteur ?
Alors, la démarche clé a démarré en 2013, donc effectivement, avec une approche de la zone portuaire sur une mutualisation d'un certain nombre de services. Donc c'est typiquement de l'écologie industrielle et territoriale. Et j'avais intégré à titre personnel cette structure par curiosité. Et très rapidement, nous y avons vu Sioprema un intérêt. Et puis surtout, ce qui m'avait étonné, c'était, et ça a été dit à nombreuses reprises pendant les interventions, c'est qu'on était très surpris de ne pas bien se connaître en tant que voisin. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc finalement, j'ai pris du temps à participer à l'essentiel des sessions organisées. Et puis ça m'a permis aussi, on va dire purement par intérêt, à l'époque, on avait un gros projet qu'on était en train de mettre en place de livraison de bitume par voie fluviale, dont j'étais chef de projet. Et qui s'appelait le projet Calypso. Tous ces éléments donnaient du sens. On a pu discuter entre les industriels, les pouvoirs publics, l'administration. Et on a vu un certain nombre de synergies, que ce soit dans les déchets, dans les énergies, dans les mobilités, qui étaient assez intéressantes. Et cette démarche, en fait, on l'a structurée au fur et à mesure. Au début, elle s'appelait pas Clé. Donc on a... Il y a à la fois, je pense, eu un réseau d'intérêt et puis presque un moment de confiance et d'amitié qui s'est instauré entre les différents partenaires. Qu'on retrouve dans toutes les démarches qui fonctionnent, on va dire. Oui. Donc c'est clairement à la fois à la base un intérêt personnel, un intérêt pour l'entreprise, et puis après une démarche qui pouvait amener des bénéfices pour toutes les parties prenantes.
Et c'est donc Sioprema est sur la zone depuis combien de temps ?
Alors Sioprema est installé depuis le début des années 70 dans la zone portuaire de Strasbourg. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément... alors tout le monde sait aussi du Strasbourg, mais il y a une problématique géographique. Il y a le Rhin qui sépare la France de l'Allemagne. Donc on est coincé en fait dans le Rhin. Et puis la zone portuaire de Strasbourg, c'est en fait 2 ports. Le port nord et le port sud, c'est 13 000 salariés. C'est des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà des très grosses entreprises. Et cette problématique géographique avec beaucoup d'eau aussi, Strasbourg. Strasbourg, ouais. C'est une ville d'eau qui est liée en fait un peu à l'histoire.
Qui s'est construit là-dessus, quoi.
Exactement. Ouais. Et Strasbourg est le deuxième port fluvial intérieur français après Paris en termes de volume. Donc c'est un port qui a une activité économique extrêmement forte, mais qui est contraint par la proximité, on va dire, du Rhin et de l'Allemagne. Mmh. À Strasbourg, tout le monde ne parle pas allemand, même si beaucoup de gens parlent allemand. Et puis les Allemands, c'est pas toujours simple du fait de cette barrière de la langue de travailler avec nos collègues allemands. Donc mais je pense c'est un souhait plus largement plus tard d'élargir au-delà du périmètre, on va dire purement français. Et c'est pour ça aussi que les partenaires politiques sont bien impliqués là-dedans. Il y a un potentiel qui est très important sur le moyen terme.
Et du coup, quand vous parlez de partenaires politiques, enfin, notamment, il y a des partenaires politiques au niveau de l'Allemagne, ou est-ce que pour l'instant, on n'est que sur...
Alors, il y a...
Ou à venir.
Alors, c'est essentiellement les élus locaux, et notamment Catherine Trautmann, qui est l'ancienne ministre de la Culture, qui est présidente du conseil d'administration du port autonome de Strasbourg, qui est une personnalité... Qui est assez extraordinaire parce qu'elle a un réseau d'influence et puis une vision qui est assez remarquable, et elle est également députée européenne, et donc elle a cette vision, on va dire, assez claire du développement aujourd'hui économique de la zone portuaire qu'elle ouais. porte au niveau politique, et elle a donc fédéré une sorte de consensus à la fois au niveau des industriels et puis des partenaires politiques, et donc on a nous la chance sur Strasbourg d'avoir un appui politique, mais également, on va dire, un appui du port autonome de Strasbourg, qui aujourd'hui trouve un intérêt, puisque l'intérêt, la démarche clé, en fait, on l'a abordée en passant d'abord par, avec Idée Alsace, en travaillant avec les grosses entreprises qui avaient les moyens, on va dire, de... Et une structure qui permettait, on va dire, de faire un certain nombre de réunions préparatoires. L'idée, on va dire, commune, hein, qui a été abordée avec le port, c'était que les grandes entreprises prennent leur part du travail, hein, trouvent leur intérêt, trouvent des synergies. Et ensuite, l'idée, ça va être de développer à la fois les infrastructures pour attirer des structures qui peuvent être plus petites. Et d'accord. Ces structures plus petites peuvent avoir après un intérêt majeur. Hein. Mmh. Ça peut être du service, ça peut être, on va dire, un système autour qui va permettre de servir, on va dire, à la fois les intérêts des pouvoirs publics, de la zone portuaire dans un développement ouais. cohérent, mais également des grandes entreprises.
D'accord. Et parce qu'en fait, quand vous disiez, vous parliez du coup d'investissement, etc., dans la démarche, ces grandes entreprises qu'on évoque, en fait, il y a eu un peu de la même manière que vous l'avez été, à l'instar de comment vous l'avez été avec Soprema, il y a eu en fait une sorte, on va dire, de leader, de porte-drapeau dans des grosses entreprises qui ont initié la démarche et qui ont investi en termes de temps, mais peut-être également financier sur la démarche pour organiser les groupes de travail et là-dessus pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Comment ça s'est...
Financièrement, en fait, le principal, on dit toujours le temps, c'est de l'argent. Ouais. Donc, on va dire, c'est essentiellement des gens comme moi qui ont... j'étais directeur d'usine, donc il faut prendre le temps, une demi-journée, temps en temps. Voilà, donc ça, c'est du... on va dire, j'ai un coût. Et oui, ce coût-là, c'est un coût d'investissement, on va dire, à la fois personnel et puis pour l'entreprise.
Ouais, tout à fait.
Donc, il y a ce premier coût. Après, ça a été dit à nombreuses reprises, l'investissement, on va dire, y compris aujourd'hui par la cotisation, ce sont des sommes qui sont relativement modiques par rapport au chiffre d'affaires des entreprises. Ouais. Donc, il faut un peu remettre l'église au centre du village. Ouais. On n'accepte pas de payer en tant qu'entreprise une prestation qui n'a pas d'intérêt.
Tout à fait.
C'est ça qu'il faut comprendre. Les pouvoirs publics, c'est pareil. Donc, il faut trouver un équilibre dans une cotisation qui permet d'équilibrer.
Ouais.
Et je l'ai dit hier quand on a témoigné... avec Colline Tavernier en table ronde, pour moi, le rôle essentiel, c'est vraiment l'animateur a un rôle essentiel. Parce que les industriels aiment les choses simples. Nous, pour nous, on a une très mauvaise compréhension de comment y organiser les pouvoirs publics avec une forêt d'acronymes qui, pour nous, sont extrêmement complexes et ça nous fait peur. Et on va dire, les structures, donc sur Strasbourg, c'était clé. C'était Idée Alsace, hein, et cette structure a un rôle essentiel, c'est-à-dire c'est à la fois le talent des animateurs et le travail qui est fait en amont pour simplifier la vie des industriels, parce que sinon l'industriel il part en courant quand c'est pas simple. Voilà.
Et puis après on dit beaucoup, donc nous du coup chez WITA, c'est ce que je vous disais juste avant, on n'est pas spécialisé sur les démarches d'écologie industrielle et territoriale, néanmoins sur tout ce qui va être synergie inter-entreprise et même sur les projets d'économie circulaire de manière un peu plus globale. On met souvent en avant la nécessité d'avoir des animateurs, des intervenants qui sont neutres en fait, aussi bien, donc pas forcément par rapport aux impacts, parce qu'on parle d'impacts qui sont à grande échelle, donc éventuellement qui concerneront le plus grand nombre. Mais néanmoins, le fait d'avoir ce facilitateur de processus, le fait d'avoir peut-être cette personne extérieure à la structure, notamment quand on parle d'industriel, ça a l'air aussi assez clé et assez important dans la démarche, quoi.
Tout à fait. Alors ça a été dit. Alors vous le dites, on s'était pas vu il y a quelques minutes, mais ça a été dit à plusieurs reprises et moi-même, je l'ai signalé hier. Aujourd'hui, dans une démarche d'écologie industrielle, s'il n'y a pas un animateur neutre, ça ne peut pas fonctionner.
Ouais.
Parce que, y compris quand il faudra plus tard gérer, on va dire, des discussions avec des associations riveraines, en fait, quand ce sont les pouvoirs publics qui amènent, va dire, les riverains vont dire, bah, vous êtes dans un réseau d'influence industrielle. Quand c'est l'industriel qui va intervenir, on va dire, mais monsieur ou madame... vous avez votre intérêt, donc cette personne, est, on va dire, qui est au centre, elle est centrale. Et c'est aujourd'hui ce qu'il faut absolument sanctuariser, à mon sens, en termes de financement, c'est vraiment ce rôle clé des animateurs, à la fois dans leurs compétences, et je le vois, là, les interventions des intervenants et des animateurs sont vraiment des intervenants. Ceux qui ont réussi sont des animateurs de grande qualité. Ils ont à la fois cette capacité d'écoute, cette capacité de simplification, et puis, on va dire, cette capacité... on va dire d'empathie et de prendre sur les épaules les intérêts qui sont parfois on va dire différents, voilà. Et pour me répéter, sans animateur, toutes les démarches de IT ne fonctionneront pas.
D'accord. Et puis on parle d'empathie et c'est aussi sûrement ce côté aussi bienveillance, parce que sur les démarches, enfin ça on va en reparler, mais de IT, on est sur des sujets de coopération. Qu'on soit industriel, qu'on soit pouvoir public, il arrive que par moment, pour une raison ou une autre, on tire un peu la couverture de notre côté, ce qui est normal et ce qui est plutôt naturel. Avec une personne qui va être neutre, il va y avoir cette bienveillance et aussi, on va dire, ce partage des gains, entre guillemets, d'un point de vue, il y a sûrement beaucoup d'intérêt pour vous. Allons peut-être aussi chercher des impacts et de la création de valeur ailleurs pour faire en sorte que ce soit le plus intéressant pour tous, quoi.
Tout à fait. Donc après, ça a été dit aussi hier, l'avantage de l'EIT, c'est que si dans le groupe de travail, il y a un vilain canard, ça se voit, on va dire, relativement vite.
Ouais.
Et les personnes qui fonctionnent, quand vous fonctionnez sur un système, on va dire, territorial, local, il est, pour des raisons d'image, il est très difficile de pas avoir une forte éthique. Hein, parce que les entreprises... ou d'autres entités qui vont être amenées à, on va dire, à pervertir, on va dire, l'objectif quand même de baisser notre impact, hein, puisque finalement c'est ça, ou en tout cas de le maîtriser le mieux possible. Ces entreprises en fait vont faire du greenwashing, hein, pour résumer, et celles-là vont être identifiées, et puis on va dire, quand c'est en local, hein, on va en parler très facilement, de la bouche à oreille. Donc, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans ces démarches de IT, c'est vraiment cette proximité qui fait ce voisinage, qui fait que on a une obligation de résultat. On a une obligation de résultat, et notamment d'une éthique qui doit être quand même à un haut niveau. Voilà. Donc, à mon sens, alors que quand on travaille aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise de volume, hein, et de masse, on achète aujourd'hui, j'ai envie de dire malheureusement, beaucoup de matières premières à l'étranger, parce qu'on n'a pas le choix avec la désindustrialisation massive des 20 dernières années, à part, on va dire, des palettes... un certain nombre de commodités, tout ce qui va concerner des produits de l'industrie chimique ou alors des produits à forte valeur ajoutée, malheureusement une grande partie est faite dans des pays assez lointains.
Ouais.
La maîtrise, on va dire, de l'éthique de ces entreprises, alors il faut rester dans une relation de confiance, mais elle est beaucoup plus complexe.
Ouais, tout à fait.
Alors que quand vous l'avez localement, là, il y a, je veux dire, c'est beaucoup plus simple à contrôler.
Ouais. Et alors juste pour revenir donc du coup sur, on va dire, un peu l'application et comment se passe la démarche vis-à-vis de Soprema. Alors déjà, il y a deux choses. Est-ce que en quelques mots, parce que je crois pas qu'on les fait, notamment pour les personnes qui nous écoutent, présenter en deux mots ce que fait Soprema et en fait aussi comment vous vous positionnez dans cette démarche d'écologie industrielle et territoriale, sur quel flux potentiellement il y a un intérêt ou il y a des synergies qui ont déjà été identifiées ou initiées, quelle est votre place au sein, si ce n'est du coup la participation et la fédération des acteurs.
D'accord. Donc Soprema est, pour présenter très rapidement le groupe, aujourd'hui c'est un groupe de plus de 7500 personnes qui a 60 usines dans le monde et dont le métier originel c'était l'étanchéité. Donc dès qu'il y a un toit plat, en France il y a quasiment 4 probabilités sur 10 sur un toit qui soit fait par Soprema. Et il y a une quinzaine d'années, notre président s'est intéressé au métier d'isolation et donc on a acheté par croissance externe un certain nombre de structures qui font des isolants. Et avec les gros programmes de rénovation énergétique, donc ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est un métier qui s'est énormément développé et il est probable que dans les prochaines années, le métier d'isolation dépasse en chiffre d'affaires notre métier de base, hein, qui a été démarré au début du XXe siècle, en 1908 exactement. Et donc le groupe continue à grandir, on va dire, dans tout ce qui va être en périphérique de l'enveloppe du bâtiment, donc charpente métallique et même charpente bois aujourd'hui.
Voilà. D'accord.
Donc ça, c'est, on a trois métiers, étanchéité, isolation, charpentier.
Ok.
Donc on est industrie du bâtiment et l'industrie du bâtiment c'est un des gros le bâtiment c'est un des gros émetteurs de gaz à effet de serre et notre objectif on va dire qui a toujours été le cas parce que c'est une démarche qui a été entreprise depuis de nombreuses années dans le groupe et qu'on veut absolument accélérer. C'est, on va dire, de proposer des solutions pour maîtriser au mieux l'impact carbone des bâtiments.
Ouais.
Et donc ça, c'est l'objectif, on va dire, de proposition commerciale.
Ouais.
L'objectif également en interne, c'est de travailler à limiter nos impacts, tenant compte que nous sommes un groupe en croissance. Donc c'est mesurer notre impact, le contrôler et faire en sorte que on balaye devant notre porte. Après, au sein de la zone portuaire, on a eu des actions concrètes, hein, puisque on a, entre autres, démarré un certain nombre de projets qui étaient destinés à diminuer notre gaz à effet de serre. Je parlais tout à l'heure de livraison de bitume par voie fluviale. Donc, on livre, alors cette année c'est un peu plus compliqué avec les bases eaux, mais on avait plus de 90% depuis 2012 de nos livraisons de bitume qui se faisaient par voie fluviale, donc
d'accord,
avec une diminution extrêmement importante de l'impact routier et de nos gaz à effet de serre, hein, de manière significative. Et on a, dans le cadre du projet d'écologie industrielle et territoriale, on a démarré une aventure qu'on appelle la pyrogasification. Donc,
d'accord,
c'est un sujet qui a démarré complètement en phase avec cette démarche de IT. Donc le principe de la pyrogasification, c'est de transformer, on va dire, une matière complexe, donc en l'occurrence une biomasse, en ce qu'on appelle un syngaz. Et ce syngaz va être brûlé dans une chaudière classique. Voilà.
D'accord.
L'intérêt de ces techniques-là, c'est, on va dire, d'avoir des performances de combustion qui sont sans égale en termes de performance environnementale. Donc, on a démarré une installation l'année dernière. Et dans le cadre de l'EIT, on a découvert que, par le réseau, qu'au lieu d'utiliser de la plaquette forestière qui présentait un taux d'humidité élevé, on pouvait utiliser du bois, on va dire, beaucoup plus sec, à peu près à 20%. Qui était du bois issu du recyclage de palettes qui était pas possible de rentrer dans un cycle de réparation économiquement, des bois de tour et d'électricien, etc., etc. Voilà. Et les avantages pour nous dans le projet industriel, hein, c'était quand même un avantage déterminant pour donner un ordre d'idée, on a économisé 200 000 euros quand même d'investissement industriel par le simple fait de ne pas utiliser un séchoir. Et c'est vrai que là-dessus, ça nous a éclairé cette démarche de IT parce qu'on a trouvé, on va dire, clairement le gisement dans le cadre de la démarche IT.
Ouais.
Et on s'est posé aussi la question de se dire, on travaille sur un projet de réduction de notre impact environnemental. Et en même temps, on a ce fameux séchoir qui nous casse les pieds parce que on veut économiser de l'énergie, on doit mettre des kilowatts électriques pour sécher du bois. Donc c'est un peu stupide.
Ouais.
Et donc dans ces réflexions, hein, qui viennent au fil de l'eau, on a trouvé donc ce gisement. On n'a pas eu à faire l'investissement industriel. Et en plus, on va dire, du point de vue purement environnemental, on a des kilowattheures qu'on économise. Voilà.
Et parce que ce bois, il venait d'où initialement ?
Alors le bois venait dans un rayon de 50 à 100 km, hein, donc pas très loin, ouais. Puisque transporter du bois économiquement c'est compliqué. Par ouais. contre, c'est du bois d'éclaircie forestière. Bon, donc ouais. C'est aujourd'hui un gisement qui est pas toujours simple à trouver. Tout à et fait. Surtout, il y avait vraiment, on va dire, une stupidité intellectuelle de, ouais. D'avoir besoin de calories pour travailler sur un sujet où vous avez besoin d'économiser de l'énergie. Donc là-dedans, l'EIT, en tout cas pour ceux qui y participent, hein, donc en l'occurrence c'était principalement moi à l'époque, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et puis d'avoir des fois des idées qu'on n'aurait jamais eues en restant dans son coin.
Ouais, voilà. Tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, donc, on était déjà sur une distance entre, on disait, 50 à 100 km. Aujourd'hui, du coup, le nouveau gisement, il fait...
Alors, suivant les approvisionnements, il va être dans un rayon de moins de 5 km à 15 ouais, km. Voilà. Donc, on a là aussi, puisque...
C'est là aussi, parce qu'il y a du coup, il y avait le séchage.
Il y a un impact logistique.
Mais il y a un impact logistique. Voilà, et puis, les éclaircies forestières, voilà. Ça restait aussi une matière qui était assez vierge, quoi.
Tout à fait. Donc après, de manière générale, et aujourd'hui, je trouve qu'avec l'évolution de la fiscalité écologique, il y a une nécessité absolue en fait de se poser ouais. à chaque fois ces questions. Donc c'est à la fois une obligation économique, et les entreprises qui ne feront pas d'énormément d'efforts vont disparaître.
Ouais. Hein,
ça c'est certain. Donc après, tant pis pour elles. Moi, j'ai aucun. Là-dedans, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix vu les enjeux. Pour en revenir à ce que je disais au tout début, les enjeux climatiques sont tellement importants et on a déjà pris tellement de retard qu'aujourd'hui, il faut absolument pas traîner. Donc les entreprises doivent absolument travailler au maximum là-dedans et l'EIT est une des clés, ouais. on va dire, à la fois de réflexion, mais également une des clés de performance.
Tout à fait.
C'est pour ça que dans mon poste, la réflexion a été de ne pas parler forcément de direction développement durable, mais plutôt de performance environnementale.
Et puis,
c'est vraiment une stratégie d'entreprise.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Parce que si je me trompe pas, il y a la partie, enfin, dans votre poste environnement, mais aussi stratégie.
Voilà, donc il y a la stratégie, et c'est pas des choses évidentes, y compris en interne à comprendre, hein, puisque on va toucher à la fois aux mobilités.
Ouais.
Donc une partie de notre travail et de mon travail, c'est un peu, je vais utiliser les mêmes bases qu'on a dans l'EIT, c'est-à-dire de récupérer des datas, de ouais. collecter des informations, qui n'est pas toujours quelque chose de simple. Hein. Les gens qui font les démarches de l'EIT ont le même problème, c'est-à-dire récupérer des datas. Et surtout des datas, il ne faut pas présenter la mariée la plus belle, hein, c'est présenter la mariée telle qu'elle existe. Hein.
Ouais.
Et donc là, on est dans une demande en interne on va dire d'éthique et d'honnêteté par rapport aux informations, puisque après effectivement on peut être amené à comparer. Dans un groupe comme nous, on a 150 entités, forcément après on peut être amené à comparer.
Mm-hmm.
Mais ce qui m'intéresse, moi, on va dire à titre personnel, c'est d'amener une démarche d'amélioration par entité et non pas une démarche de dire celui-là il est pas bon par rapport à l'autre.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Donc là-dedans, il faut fédérer et donc il faut qu'on ait des collègues d'informations pertinentes, et qu'on ait l'objectif, on va dire clairement, c'est de faire beaucoup d'informations sur le sujet en disant qu'avec peu d'actions, mais sur un maximum de personnes, à partir du moment où les gens vont avoir des réflexes de sobriété, parce qu'on oublie beaucoup de parler de sobriété, c'est un point qui est, à mon sens, essentiel, que
ouais.
moi j'ai découvert à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, et qu'on voit tous les jours, il faut absolument travailler sur la sobriété et surtout pas faire croire que la sobriété, c'est
la baisse de qualité.
Exactement. Et donc, c'est du comportemental, c'est de la réflexion, c'est une autre forme d'intelligence. Donc là-dedans, il y a des gains extrêmement importants à avoir. Et donc, nous, on va travailler, on va dire, à récupérer de la masse, hein, pour aussi développer... on va dire une autre approche budgétaire. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une approche budgétaire, une approche de collecte d'informations de masse, vous avez un état des lieux et puis il faut aussi se projeter, on va dire, quelques années plus tard. Par exemple, si les déchets aujourd'hui, ça nous coûte 100, je ne parle même pas de l'impact sociétal, hein,
ouais,
donc
ouais.
Je parle là purement économiquement, ça coûte 100. Toutes les évolutions, on va dire, réglementaires aujourd'hui vont montrer que ça va être dans quelques années. Donc, partons sur 2025, on va passer probablement de 100 à 200 au moins. Donc, si ce n'est pas plus. Et puis, avec une autre problématique là, purement sociétale, où où aujourd'hui beaucoup de matières premières se retrouvent dans des trous qui à un moment vont être pleins. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que quand les trous sont pleins, il faut en reconstruire. Ouais. Et vous comme moi, si vous aviez votre appartement ou votre maison à côté d'un trou qui doit se créer, vous serez les premiers à manifester. Et c'est tout à fait normal. Donc en fait, on a une obligation, une urgence absolue de trouver des solutions pour on va dire réduire le nombre de matières premières qui vont dans ces centres d'enfouissement ultimes et de les valoriser. Donc, chez Soprema, notre objectif, c'est de comme une entreprise du bâtiment, le métier du bâtiment génère, on va dire, des quantités importantes de déchets. Alors, pour le coup, en tonnage, qui sont essentiellement liés à la masse, donc il y a du béton, donc ça, on le sait. Donc, mais en masse, c'est vraiment extrêmement important. Mais derrière, il faut transporter ces matières. Il faut par des camions les stocker. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des impacts à la fois en tonnage, en euros et des impacts sociétaux qui sont extrêmement importants. Donc notre objectif, c'est vraiment de collecter ces informations et de les présenter à des directeurs de business unit pour, on va dire, leur faire rendre compte de la masse, sachant qu'aujourd'hui, ce sont des citoyens comme les autres, ils sont conscients quand même des enjeux, mais derrière, il faut leur amener leur intérêt à titre personnel, pour le développement de la business unit, de leur dire « Écoute Jean-Jacques, c'est 100 aujourd'hui, mais ce sera 200, voire 300 dans quelques années avec d'autres et d'autres contraintes. Il faut absolument que dans ton organisation, tu développes et tu investisses, les moyens qu'il faut. » Donc, un exemple concret, des gens qui vont demander, on va dire, d'améliorer leur qualité de tri. Ouais. Un directeur d'agence, par exemple, ou un directeur d'usine a besoin parfois de bennes à déchets ou une autre organisation. Eh bien, si c'est un investissement, qui est présenté, il pourrait être refusé pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui, le coût d'enfouissement n'est pas forcément extrêmement élevé pour un industriel. Mais si on fait une projection,
ça reste un coût, non, déjà.
C'est un coût, mais c'est pas un coût qui reste très élevé, il faut le savoir. J'y reviendrai un peu plus tard. Son modèle économique en fait ne soit pas vu à 2018, mais à 2025. Ouais. Et ce qui permettra, on va dire, de débloquer des fonds pour pouvoir avoir un moment un retour sur investissement. Ouais. Et après, avec les effets de bord qui sont intéressants. Il y a des effets de bord positifs. Quand vous parlez aujourd'hui, on a énormément d'indicateurs dans l'industrie qui sont des indicateurs de productivité. Et aujourd'hui, que ce soit pour un opérateur de production, un compagnon sur chantier, un cadre d'usine, un directeur d'usine, il faut donner du sens au travail. Donc il faut qu'on arrive à développer des indicateurs qui soient complémentaires de nos indicateurs de productivité, mais qui également donnent du sens au travail. C'est pourquoi je travaille chez Soprema. Qu'est-ce que je produis, pour quel usage, et comment je fais en sorte que je participe à mon petit niveau
à la création de valeur.
Tout à fait. Voilà. Et cette création de valeur, il faut qu'elle soit, on va dire, complètement transversale. Vraiment de l'opérateur qui a un rôle majeur, parce que le tri, c'est une contrainte qu'on peut voir également dans son quotidien. Donc, on va dire, quand il puisse en parler avec son encadrement, il y ait sur ce point-là une convergence.
D'accord. Mais il y a quelque chose que... Du coup, que je me demandais, c'est que donc vous avez l'air très convaincu par les démarches et l'intérêt des démarches environnementales et enfin du coup personnellement, et ça s'est manifesté de plus en plus dans le milieu professionnel. Mais comment on en vient à convaincre en fait, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que au niveau du port, il y avait eu aucune ou très peu d'interaction entre Soprema et les autres et inversement. Donc c'est sûrement qu'il y avait des raisons, si ce n'est un manque de curiosité. Comment est-ce qu'on en vient du coup à transmettre et un peu à contaminer les autres dans le bon sens du terme pour cette conscience environnementale et à leur dire effectivement faut passer à l'action maintenant.
Je pense qu'aujourd'hui des fois on passe trop de temps à essayer de convaincre les gens.
Ouais.
Je rencontre quand même beaucoup de gens et ce qui me surprend que ce soit au niveau français ou au niveau international aujourd'hui tout à de rares exceptions près. Tout le monde est conscient de l'urgence climatique.
Ouais.
Donc, À mon avis, il ne faut pas trop perdre de temps, on va dire, à essayer de convaincre. Il faut effectivement donner des exemples et puis dire que essayer, enfin par l'exemple en fait, expérimenter et montrer l'intérêt. On va dire l'intérêt. Alors il y a toujours chez une personne, hein, chez moi-même, il y a le citoyen et il y a le salarié.
Ouais.
Donc et quand t'es né dans une entreprise, on est salarié, on doit apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que, et c'est bien pour ça que j'ai complètement changé de travail. Avant, j'avais 120 personnes sous ma responsabilité. Aujourd'hui, j'en ai zéro. Donc, c'est très, très différent. Mais j'adorais les gens et travailler avec les gens. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très transversal.
Donc,
à titre personnel, quelles que soient les présentations que je fais, je parle toujours de l'urgence climatique. Parce que l'urgence climatique, c'est quelque chose, et on en voit quasiment des exemples tous les jours. Aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler, il y a un épisode Cévenol dans le sud de la France, mais il y en avait toujours. Il y en a toujours eu, mais ils sont de plus en plus violents. Il y a en même temps un ouragan en Floride, il y en a toujours eu, mais ils sont de plus en plus violents.
Ouais.
Donc il y a une vraie urgence climatique qui va se transformer en urgence, on va dire, migratoire, parce que le vrai souci va être, on va dire, on n'arrive déjà pas à gérer quelques centaines de milliers de personnes qui migrent dans les pays riches. Quand ça va être des dizaines de millions, ça va être catastrophique. Donc on ne sait pas comment le gérer, donc il y a... soyons pas catastrophistes. Moi, je reste persuadé qu'il y a des solutions et il faut absolument arriver à fédérer sur des solutions. Et vraiment, moi, je pense qu'il y a des choses et je le vois y compris dans nos entités. En fait, pour avoir été 20 ans dans l'industrie, donc où on est toujours le nez dans le guidon, il est très important que... Et maintenant, je suis plus né dans le guidon, mais on va dire, on travaille différemment.
Ouais.
Mais il faut toujours se mettre à la place de la personne qui est née dans le guidon. Et donc, on va dire, l'expérience qu'on accumule permet, il faut à la fois comprendre que la personne qui est née dans le guidon peut se tromper de direction, et on ferait pareil à sa place. Moi,
ouais,
je l'ai fait plein de fois dans ma carrière d'industriel. Il faut se servir de cette expérience. Pour identifier les points simples. Les points simples, ça peut être un exemple très concret dans les usines. Quand vous avez beaucoup de régulations, il y a des process, vous les régulez à 250 degrés, par exemple. Et là, pourquoi on ne peut pas le réguler à 248? Pourquoi on ne peut pas le réguler à 245? À un moment, il y aura forcément une limite. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Et est-ce qu'on le fait? Et tout ça, c'est, on dit toujours, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. C'est une réalité.
Ouais.
Et ça, on peut l'appliquer à plein de choses. On peut l'appliquer à la mobilité. On peut l'appliquer à énormément de sujets. Et en fait, c'est ces éléments-là qu'il faut apporter, on va dire, aux gens qui ont le nez dans le guidon, dont moi j'étais il n'y a encore pas plus tard qu'il y a un an. Ou à un moment, on n'a pas forcément la notion ou la clairvoyance parce que on a énormément de tâches à faire et donc un des principaux objectifs, ça va être d'identifier des choses simples là pour convaincre en disant à ce niveau-là, nous avons identifié que ce soit dans le déchet, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans le comportemental, des choses à améliorer. Et on va essayer de mettre en place des choses simples qui fonctionnent. Parce que si ça fonctionne pas, si on fait quelque chose de trop compliqué, et ben forcément, il y a peu de chances que ça fonctionne.
Ouais, tout à fait. Donc,
et une fois qu'on a créé, on va dire... une démarche qui est comprise par tout le monde, en fait, ça va venir de tout le monde.
Naturel.
Et ça va être, et c'est beaucoup plus naturel. C'est comme si on allait parler un peu la même langue.
Tout à fait.
Si vous parlez avec des gens étrangers, c'est compliqué si vous ne maîtrisez pas la langue. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaye de développer. Donc, c'est à la fois très théorique, moi, j'ai la chance d'avoir eu pendant 20 ans, j'ai fait vraiment de l'opérationnel. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit pas que de la théorie.
Mmh.
Et il faut aller voir vraiment, faut aller voir les gens de terrain et les directions.
Ça rejoint aussi, moi, de ce que j'en comprends, ça fait aussi lien avec ce que vous disiez juste avant de redonner aux équipes et aux collaborateurs, on va dire, une vision par rapport à la structure, qu'elle soit institutionnelle, privée, publique, peu importe, mais pour laquelle ils travaillent ou avec laquelle ils travaillent. Et également le pourquoi je travaille pour eux et de quelle manière j'apporte cette valeur-là. Donc il y a un côté aussi se réapproprier son cadre de travail et surtout pouvoir mieux s'y investir de manière personnelle et du coup laisser peut-être plus place aussi à cette conscience peut-être environnementale, écologique que vous disiez on a tous, mais vu qu'on a la tête dans le guidon pour des raisons rationnelles et de pression, qu'elle soit hiérarchique ou marché, peu importe. Là, en laissant la place en fait davantage au personnel et en donnant davantage de valeur en fait au travail, ça permet aussi peut-être de laisser plus de place à la transformation, quoi.
Tout à fait. Ouais. Après, il faut qu'on, pour en revenir à Soprema, nous on met en place des outils aujourd'hui qui sont destinés à faciliter le travail des on va dire des différentes parties prenantes. Par exemple, ouais. sur l'énergie, on met en place un tableau de bord énergie groupe avant chacun renseigner dans des fichiers Excel. Voilà.
Ouais, ouais.
Aujourd'hui, on va partager cette information. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les démarches de IT, une fois qu'on a la logique, vous pouvez très bien l'appliquer dans une entreprise.
Ouais, c'est ça.
Donc, Soprema, comme je vous le disais, 150 entités, on va dire une centaine en Europe. Hein, on peut très bien faire de l'IT interne. Donc,
ouais.
Donc, au lieu de travailler chacun dans son coin, sur un certain nombre de sujets, on peut pas tout faire, mais sur un certain nombre de sujets, on partage l'information.
Ouais, tout à fait.
Et on va dire, on va essayer de progresser. Et il faut arrêter de stigmatiser les gens en disant pourquoi t'es mauvais à cet endroit-là. C'est plutôt dire voilà, il y a manifestement un écart. Mais comment on va faire pour progresser, on va dire, dans l'entité? Ça peut être pour des raisons techniques, ça peut être du comportemental, etc. Mais il faut mettre en place des choses, on va dire, simples. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il faut simplifier au maximum le travail des opérationnels. Donc, évitons de faire des choses trop complexes, trop théoriques, travaillons sur les choses simples. Et à mon sens, vraiment, c'est vraiment cette compréhension que la sobriété, c'est pas quelque chose de non qualitatif, ou on va dire de coercitif, ou etc. Je veux dire, aujourd'hui, ça doit être naturel que, on va dire, qu'on coupe les lumières en sortant d'un bureau, qu'on fasse attention à ça, et c'est pas encore tout à fait présent partout. Dans les nouveaux bâtiments, on peut le faire, mais si vous voyez votre voisin couper la lumière, ou alors couper l'eau quand on donc, ou quand il y a une fuite d'eau, on va dire des choses très très simples, on s'en occupe, voilà. Donc c'est des choses, parce que forcément vous allez aujourd'hui sur des choses symboliques. À partir du moment où on acquiert, on va dire, ce réflexe de la symbolique, dans le cadre, si vous êtes responsable de projet, vous allez forcément l'intégrer, c'est tout à fait normal. Donc énormément de choses symboliques, très pragmatiques, peuvent permettre, on va dire, de c'est une structuration d'esprit, en fait.
En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on s'en rend compte aussi dans toutes les, enfin, que ce soit sur des prestations de formation, sur des prestations de conception de produits ou autres. L'économie circulaire, le IT, ça va souvent être vu comme un peu une fin en soi. C'est-à-dire, il faut boucler la boucle, il faut. Et en fait, très souvent, nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est les notions de circularité. Donc déjà, c'est plus ou moins tangible. Circularité, c'est aussi faire circuler l'information. C'est aussi, et surtout, c'est avant tout une démarche. Donc c'est-à-dire que, de nouveau, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste un état d'esprit dans lequel il faut se mettre, qu'il faut aussi partager. Et en fait, après, c'est juste changer la manière dont on gère nos ressources. Mais c'est pas, c'est pas une fin en soi. Et ça peut être des actions, en fait. Après, c'est aussi l'effet boule de neige. L'action va entraîner l'autre et ça va mettre en place une démarche, des méthodes, des techniques et qui vont finalement faire en sorte que le tout va changer, quoi.
Tout à fait. Donc il faut à la fois faire, on va dire, appliquer les principes de l'EIT au sein d'un groupe, d'une entreprise, et
après,
avoir cette ouverture d'esprit d'aller voir aussi ce qui se fait chez les voisins, le partager. Parce que, on va dire, on se nourrit évidemment de ces échanges.
Ouais.
Et également comprendre, notamment les jeunes générations. Moi, j'ai 46 ans, donc je suis un peu pile poil au milieu de carrière. Et c'est très intéressant aujourd'hui de voir l'évolution. à la fois des générations qui vont partir à la retraite, hein, on va dire notre génération intermédiaire, et puis on va dire le besoin aussi des jeunes aujourd'hui de bien-être au travail, d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Nous, on était une génération de gros bosseurs. Hein, et des fois, on dit que les jeunes bossent moins. En fait, je pense qu'ils bossent différemment. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité. La barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elle est beaucoup plus fine. Et donc, en fait, on va dire, ils travaillent tout le temps, sauf qu'ils sont capables, quand ils sont au travail, de parler perso, et quand ils sont en dehors quand ils ont fini leur travail, finalement, donc dans leur vie personnelle, de parler travail. Ouais. Et ça, c'est. Et si on fait ça, enfin, j'ai envie de dire, si cette tendance se confirme, il faut absolument que les gens trouvent un intérêt, on va dire, et du sens dans leur travail. Ouais. Sinon, on va dire, parce que sinon, on va appliquer au travail, on dit, j'ai du travail. C'est vu quelque chose comme négatif. Et à mon sens, la jeune génération, il ne faut pas leur imposer cette contrainte de dire, oui, il faut travailler, ça c'est logique, mais derrière, ça doit se faire avec un minimum de sens et idéalement de plaisir. Et donc, c'est vraiment, et cette conscience, on va dire, de. Ce besoin de transparence, ce besoin, on va dire, de partage d'informations, il ne faut pas le briser parce que c'est cette génération-là qui doit faire beaucoup plus d'efforts que la mienne, on va dire, en beaucoup moins de temps. En plus, ils vont devoir faire... moi, c'est un sujet qui comme j'ai des enfants qui ont 18 et 20 ans, on en discute de temps en temps. C'est vrai que des fois, ils me disent, mais... en fait, vous nous imposez à nous une contrainte dont on n'a aucune responsabilité. Donc, je leur dis, oui, je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas le choix, il faut le faire. Parce que vous-même, vous aurez peut-être à un moment des enfants. Et donc, si on raisonne tous comme ça, on n'y arrivera pas. Ce qui est sûr, c'est que cette génération va devoir aller beaucoup plus vite que nous et avec des niveaux, on va dire, de sobriété qui va devoir être mis. On parle vraiment, enfin, quand on parle de volume, c'est extraordinaire. Donc là-dedans, ça part vraiment. Il faut leur donner vraiment cette fluidité et ce besoin de sens et de performance, parce que et la communication là-dedans va être essentielle.
D'accord. Pour revenir un peu en arrière entre guillemets sur la démarche clé, je me posais une question vis-à-vis de la concurrence, parce qu'en fait, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez entendu, vécu. Nous, en tout cas, ça l'est. Très souvent, sur ces démarches-là, c'est-à-dire que partager, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. On est beaucoup sur de la compétition, mais que ce soit sur des concurrents directs ou même pas. Hein. Quand on est même sur un secteur, on parle du bâti, en fait, qu'on soit en amont ou en aval, on a du mal à coopérer. Au niveau du port, je crois qu'il n'y a pas de concurrents directs, si ce n'est deux. Donc, il y a deux cafés.
Alors, il y a dans l'industrie agroalimentaire, il y a quelques entités concurrentes.
D'accord. Et donc, du coup, ça a peut-être posé moins de soucis pour les autres acteurs. Mais est-ce que cette notion de compétition, de concurrence, a pu poser des problèmes? Est-ce que certains en ont eu peur? Est-ce que pour les acteurs de l'agroalimentaire, c'est toujours un souci? Ou est-ce que même face à ça, on arrive à trouver des compromis, entre guillemets?
Alors, dans la démarche clé, on avait la chance qu'il y ait peu d'acteurs concurrents, mais on en avait. Et ça a effectivement été un débat, mais moi, j'ai plus eu l'impression que c'était la culture d'entreprise qui faisait qu'on n'avait pas envie de partager des informations, et non pas la concurrence.
Ouais.
Donc, Soprema est un peu mal placé parce que dans la zone portuaire, il y avait pas de concurrence. Ouais. Par contre, nous, on a été porteurs de dire, mais attendez, si on veut avancer, il faut quand même qu'on donne tous des kilowattheures à Idealdas, il faut tous qu'on donne un minimum d'euros, sinon on n'avance pas. Donc, je pense qu'à notre petit niveau et en toute humilité, on a nous porté une démarche de dire, écoutez, si vous partagez pas, ça sert à rien de rester. C'est pas possible, parce que c'est la base. La base, quand même, de toutes les démarches unités, c'est d'une notion de flux. De flux et de masse, avec des unités qui sont des tonnes, des kilos, enfin des tonnes et des euros, voilà, c'est tout. Et des kilowattheures pour la partie énergétique. Donc, je pense que ça a été un petit écueil à un moment lors d'une réunion, mais assez rapidement ça s'est ouvert. Hein. Donc là, c'est plus Colline qui pourrait, le cas échéant, donner des informations complémentaires, mais il faut aller au-delà de ça. Et Soprema, nous, on a la chance d'avoir une culture et un président qui communiquent assez facilement sur des chiffres qui peuvent être vus d'extérieur comme étant confidentiels. Mais il se dit, les autres, ils ont qu'à faire pareil. Et puis, l'objectif, c'est d'être les meilleurs. Et donc, on va dire, débrouillez-vous pour soit faire aussi bien ou je pense que là-dedans, à mon sens, ça ne doit pas être un frein. Mais c'est plus un frein culturel. Il y a des entreprises qui sont effectivement très, très frileuses à donner leurs informations. Ouais. Mais elles n'ont pas... celles-là, à mon avis, n'ont aucun intérêt à rester dans une démarche solitaire.
Moi, je me demandais... là, c'est plutôt ce qui vous porte, aussi bien dans la démarche que du coup plus personnellement. Est-ce qu'il y a des projets de IT ou des démarches EIT environnementales ou économie circulaire ou même économie classique qui vous inspirent particulièrement?
On va dire dans les démarches de IT ou dans les démarches générales pour c'est par exemple la mobilité. La mobilité. C'est quelque chose qui va être essentiel. D'une part, c'est un gros contributeur des gaz à effet de serre. Et ça concerne tout le monde. Nous, on a de plus en plus de salariés qui, pour venir dans la zone portuaire sud de Strasbourg, mettent beaucoup de temps, arrivent stressés au travail. Et donc, on a été assez surpris, quand on les a interrogés, de leur mode de transport. Donc, on voyait visuellement. Hein, c'est-à-dire beaucoup de gens venaient en voiture individuelle. Et je trouve que c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et l'alternative est clairement le vélo dans la zone portuaire sud de Strasbourg. Strasbourg, c'est aussi une ville de vélo. Hein. Ouais. Donc, par contre, il n'y a quasiment pas de pistes cyclables dans les zones portuaires. Donc, c'est un sujet qu'on a porté au plus haut niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, puisqu'il y a forcément des investissements à faire. Et là-dedans, Soprema, ça fait une dizaine d'années déjà qu'on posait cette question. On avait des gens qu'on ne pouvait pas recruter pour des raisons purement d'éloignement.
D'accord.
Ils n'avaient pas les moyens de venir. Il n'y avait pas de transport en commun. En vélo, c'était catastrophique pour venir. Donc, il fallait une voiture. Évidemment, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Donc, à mon avis, en tout cas, dans des zones comme celles que nous avons sur Strasbourg, il y en a un certain nombre. On parlait avant de Dunkerque, de La Rochelle, enfin, en tout cas, toutes ces zones industrielles, la mobilité doit être complètement intégrée à la démarche EIT. Parce que là, vous allez toucher à la fois l'intérêt de l'entreprise, de faire en sorte d'améliorer l'attractivité de l'entreprise par un positionnement, on va dire, géographique qui est adapté à un transport, on va dire, confortable. Et puis, on a un impact environnemental. Clairement. Donc, la démarche PEPS, il faut l'intégrer à l'EIT.
D'accord.
Il faut l'intégrer à l'EIT. C'est impératif.
Quelles sont, en fait, les prochaines étapes dans cette démarche clé et aussi pour pérenniser finalement la démarche et que ce soit pas quelque chose d'embryonnaire mais qui en fait va se développer petit à petit.
Alors de toute façon dans toutes les démarches de IT il y aura des hauts et des bas. Donc il y a l'enthousiasme du début et après il y a une phase où c'est compliqué. Donc il faut tenir le cap et je pense que là-dedans c'est pas un conseil que je donne à Idealdas mais c'est un conseil qu'on doit donner à tout le monde, c'est qu'il faut rappeler les enjeux notamment économiques. Hein. Quand on a démarré la démarche EIT en 2013, on va dire les énergies, les déchets coûtaient tant. Il s'est avéré que ces trois dernières années avant celle-ci, il y a eu une baisse assez, une stagnation, on va dire, de l'évolution des coûts des déchets, parce qu'il y a des lobbies qui le font. Et il y a également une baisse assez substantielle des coûts d'énergie, notamment pour le gaz, moins pour l'électricité. Donc forcément, à un moment, les entreprises, quand on regarde ça, on se dit ça baisse. Ce qui se passe, c'est qu'en 2018, il y a deux évolutions majeures. Il y a d'une part, dans la feuille de route de l'économie circulaire, la TGAP est programmée pour... donc la taxe générale sur les activités polluantes est programmée pour augmenter de manière substantielle. C'est inscrit dans la loi de finances. Donc il faut rappeler qu'il y a, on va dire, une évolution assez forte de cet enjeu économique. Ouais. Sans parler encore une fois de l'enjeu sociétal, mais également les énergies, notamment les énergies thermiques, le gaz naturel est en train de réexploser pour à cause de la fiscalité et de l'évolution du baril. Donc, il faut, pour le coup, remettre l'église au centre du village. Je pense que s'il y a un petit peu un coup de mou dans l'enthousiasme, il faut rappeler aux entreprises, regardez ce qu'on avait fait en 2013. Il faut toujours regarder dans le rétroviseur, regarder ce qui se passait en 2016-2017, et regarder où on en est et regarder où on va aller en 2025. Et donc, il faut, à mon avis, vraiment reparler de ces deux enjeux majeurs et en intégrant toutes les problématiques de mobilité dont on a parlé avant, qui sont aujourd'hui, tout le monde a des problèmes de mobilité. Mmh. Tout le monde.
Et du coup, là, en fait, l'idée, c'est que vous allez... Je crois qu'il y a... Je ne sais pas comment vous appelez ça, si vous fonctionnez par session. J'ai entendu parler de la troisième action, ou je ne sais plus, dans la démarche, en fait. Est-ce que c'est... vous y allez par sorte de chapitre où, en fait, à chaque fois, un nouveau chapitre s'ouvre avec une nouvelle démarche, un nouveau gisement? Ou est-ce que là, après, une fois que la machine va être lancée à partir d'une certaine année, on considère que là, on va plus potentiellement avoir besoin d'un animateur et que ça va partir tout seul? C'est un peu la question que je me pose.
Pour me répéter, là, pour moi, il n'y a pas de débat. Il faudra un animateur.
Jusqu'à...
Tout le temps.
Tout le temps.
Enfin, moi, j'en suis persuadé.
D'accord.
J'en suis persuadé.
Donc, okay.
D'une part, pour des raisons de neutralité, et d'autre part, parce que les entreprises n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens non plus de s'occuper des autres entreprises. C'est aussi simple que ça.
Non, mais je veux dire, si on part, si on suppose que là, ça y est, on a substitué tel flux par un autre et que, comme on disait, c'est plutôt un mode de pensée, une méthodologie, c'est-à-dire que si on a besoin d'une nouvelle ressource, au lieu d'aller la chercher à l'autre bout du monde, on va dans un premier temps regarder ce qu'il y a autour de nous. Si ça, c'est une démarche qui est amenée à devenir de plus en plus automatique, on peut imaginer qu'en fait, ça va devenir quelque chose de qui va fonctionner naturel, oui. comme l'économie.
Oui.
Et le...
Oui et non. Après, il y a une zone industrielle, une zone portuaire évolue. Il y a des entreprises qui viennent, des entreprises qui partent. Il y a une extension de l'agglomération qui fait que le foncier peut être amené à évoluer. Une évolution de la société. Il y a des enjeux... qui évolue de manière substantielle. Hein. Donc, je pense que l'équilibre, il n'y a jamais vraiment d'équilibre, en fait, dans ce genre de choses. Donc, la démarche intellectuelle, elle restera toujours présente. Hein. Par contre, la nécessité de se rencontrer, d'échanger et d'avoir un rapport de confiance, est essentielle. Donc, à mon avis... la démarche de IT ne peut fonctionner que effectivement s'il y a ce rôle d'animateur qui se remet toujours en cause et qui lui-même va avoir deux visions. Nous aussi, les pouvoirs publics évoluent, hein, ils n'arrêtent pas d'évoluer, donc c'est très compliqué pour nous aussi de savoir qui est en face, on va dire. Et là-dedans, je reste persuadé, moi, que ça restera des lieux de rencontre.
D'accord.
Et qu'il y aura en permanence des équilibres, de nouveaux équilibres qui vont se créer.
Mm-mm. D'accord.
Donc, je ne crois pas à l'auto-combustion, on appelle ça dans un système purement thermique. Non, il faut à chaque fois mettre un peu d'huile, l'huile dans le moteur ou du vent dans l'éolienne. Ouais.
D'accord. Et maintenant, donc, pour conclure, je ne sais pas si on peut parler de conseils, mais vos deux, trois mots clés ou vos deux, trois... on va dire, six conseils pour les industriels qui voudraient initier cette démarche-là pour faire en sorte qu'elle soit, on va dire, la plus performante possible.
Alors,
si ce n'est ce qu'on a du coup déjà pu voir.
Oui, mais... alors déjà, il faut être très, très humble. Je pense qu'il y a autant de IT qu'il y a d'acteurs et de zones géographiques.
Hein. Ouais.
Ça peut être mais les principes vont toujours être les mêmes. Il faut pouvoir créer une rencontre, un climat de confiance. Il faut, un animateur et, également des appuis politiques. Mmh. Et puis, à mon sens, des dirigeants d'entreprise qui soient fortement impliqués.
D'accord.
Et vraiment, il faut aujourd'hui que que ces actions-là, toutes les actions de IT qui fonctionnent aujourd'hui et demain vont être portées par, des dirigeants d'entreprise, des directeurs d'usine ou carrément le chef d'entreprise quand c'est une entreprise de taille plus petite. Là-dedans, je n'ai pas vraiment de conseils à donner, mais ça me paraît essentiel. Sans ça, ça ne peut pas avancer.
Et peut-être aussi pas attendre, en fait, parce qu'on parle d'animateur, mais peut-être pas attendre que l'animateur arrive, mais peut-être aller le chercher après.
Tout à fait. Après, ça, il faut effectivement que les industriels puissent prendre leur téléphone et discuter avec leurs voisins. Et ça, ils peuvent le faire de manière indépendante. Et après, il faut qu'ils aient des élus à l'écoute pour... on va dire pour que ça démarre.
Ouais, tout à fait.
Donc, mais les industriels ont un rôle, évidemment. Ouais. Il faut pas qu'ils restent dans leur tour d'ivoire là. Il faut absolument sortir. Et puis, sinon, le monde aujourd'hui évolue tellement vite que si on ne prend pas l'initiative, l'initiative
peut
très bien venir des industriels, parce que si elle ne vient que des élus ou que on va dire d'entités telles que IDELSA, ça suffit pas.
Ouais.
Ça suffit pas.
Donc, ça suffit pas, non. Et puis l'intérêt n'y sera pas, quoi.
Bien sûr.
Ouais, tout à fait. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Et puis, bon courage en tout cas pour la suite. Bravo à IDEALSAS. Il y a Colline qui est à côté de nous, vous le voyez pas, mais il y a Colline qui est là. En tout cas, on sera curieux de voir comment ça évolue, aussi bien pour le port que pour Soprema. N'hésitez pas à nous partager des résultats éventuels. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez contacter Olivier Wehmann et également venir visiter Soprema et contacter aussi IDEALSAS. Merci beaucoup, à bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.